Move Music.
Sur Voltage, nous passons les nuits ensemble. Je suis une intelligence artificielle et on découvre ensemble nos meilleures interviews. Comme celle-ci.
Ritza est avec nous.
T'as fait ta vie ailleurs et moi j'ai fait la même. Je t'ai vu sourire ailleurs.
Quel kiff cet album Équateur qui est sorti il y a quelques jours maintenant, ouais. Et dans cet album, donc il y a évidemment le nouveau, nous deux. Et puis ceux qui nous ont fait danser cet été, un peu avant l'été même, Santa Maria et puis Olé. Alors Ritza, moi je t'ai vu sur scène cet été, ouais. Ça fonctionne bien, hein, comme d'habitude, comme à l'accoutumée. T'es une machine à disque d'or, à disque de platine, c'est fou, et à disque de diamant. Donc en gros, je pense que si on t'avait donné un diamant à chaque fois que t'avais eu un disque de diamant, gars, t'es plus riche que Bezos. Bon, tu nous as livré un album de fou, 17 titres.
Merci beaucoup.
Tant t'as des artistes, tu vois, qui livrent des albums, ils font 11 et puis ils se disent, bah j'en ferai 6 dans une réédition et tout. Ouais. Ritza, y a pas de ça. Il y a 17 titres, tu nous le disais hors antenne, c'est une playlist en fait.
Ouais, c'est ça, c'est une playlist parce qu'il y a de tous les styles et tout, quoi. Je me dis, bon, quelqu'un qui fait un long voyage, bah il écoutera pas 17 fois la même chanson, enfin, il y a de tous les styles.
Quatrième album, est-ce que tu l'as construit différemment des autres?
J'ai pris plus de temps déjà.
Ouais.
Plus de plaisir. Et là, c'est vraiment pratiquement que mes idées, quoi. Quand j'arrivais au studio, j'avais déjà mes idées, je travaillais avec d'autres gens, donc là c'est vraiment un album qui me correspond, disons, musicalement.
Donc sur les autres, t'avais moins de liberté, et là c'est toi, quoi.
C'est pas que j'avais moins de liberté, j'en avais, mais j'étais quand même guidé. Je travaillais avec des gens comme Renaud, qui a vraiment ses idées, tu vois, c'est des compositeurs qui composent pour les plus grands, et pour le coup, lui, tu vois, c'est la note, elle est là, elle est pas là, tu vois. Et que quand il est pas là, moi peut-être que la note, je la mets là, et tu vois, c'est comme ça.
Mais du coup, tu t'es senti plus à l'aise à le faire comme ça? Comment tu t'es senti là-dedans?
Pas forcément plus à l'aise, parce qu'avec Renaud, on a fait quand même des gros tubes, avec Avancé, Porto Rico, je m'en fous, enfin, on en a eu pas mal, mais c'est une manière de travailler différente. Je me suis retrouvé plus moi et moins guidé, quoi. Mais quand Renaud, il fait ça, il sait ce qu'il fait, hein, ça marche aussi très bien.
Bon, on va en parler de cet album, de comment tu l'as construit, parce que c'est vrai que on se pose des questions en tant qu'auditeur de ta musique, tu vois, parce que nous on connaît le personnage Ritza, etc. Mais on sait pas forcément comment ça se passe en off. Ouais, donc on va te demander un petit peu ça. On va parler de ton concert à l'Olympia qui arrive le 1er avril. Alors tournée dans la France entière, mais on va s'intéresser à chez nous, à Paris. Olympia, fou. Dans quelques semaines, là, tu vas avoir tes lettres de ton prénom en rouge au-dessus de l'Olympia.
C'est exactement ça. Je me dis, c'est un nom que j'ai créé, tu vois. C'est un truc en 2009, j'ai créé un truc et il va être écrit en rouge.
C'est fou.
C'est un truc de fou.
Il y a quelques semaines, tu passais devant, là, j'ai vu sur une story Instagram et tout, tu as dit, c'est bientôt à nous.
Ouais, c'est ça.
C'est fou.
C'est complètement fou. J'ai vraiment hâte d'y être, quoi. C'est mythique pour un artiste, c'est...
Est-ce que t'as plus hâte ou plus le track d'y être pour l'instant?
Non, hâte, à fond. Okay. Et en plus, nouveau show. C'est fini avec le DJ là, c'est vrai musicien, donc gros concert, on va envoyer de ouf, j'ai vraiment hâte.
Là on voit à ma tête, vous allez voir les images sur l'Instagram de Voltage, que j'étais pas au courant du côté musicien, bien.
Toi tu m'as toujours vu avec un DJ, foutre le bordel partout,
oui.
Mais il est temps, enfin l'Olympia, voilà, même pour les gens c'est pas donné, c'est un prix qui est un peu plus cher qu'un concert normal, ils sont obligés d'envoyer quelque chose de fou, quoi.
Là, c'est pas showcase boîte de nuit. Là, c'est Olympia. Il y aura fini, des mamans, des papas, des enfants. Ouais. Là, on met tout.
On met les musiciens. C'est fini, Samo qui crie dans le micro derrière. Là, on fait de la vraie musique. Là.
Samo, il sera dans le public.
Peut-être il va venir de temps en temps sur scène. Je sais pas.
Bah, je me méfie. Une bouteille d'eau, un truc.
Je me méfie de lui quand même.
Bon, ça, c'est le dernier.
T'as fait ta vie ailleurs et moi, j'ai fait la même. Je t'ai fait sourire ailleurs.
Autant te dire que sur Voltage, on le diffuse allègrement, mais on l'aime beaucoup.
Je suis rentré à Orléans, je l'ai beaucoup entendu.
C'est vrai? Bon, c'était pas chez nous du coup. C'est le grand Voltage, le grand Paris.
Même ici, tu vois. Mais c'est vrai que dans les Uber, par contre, vous êtes une des radios les plus jouées.
C'est vrai.
Je te jure, dans les Uber, j'entends souvent Voltage. Non, franchement, Uber équipe Voltage, donc bravo. Hein.
Et ben nous, Voltage, on kiffe ça, c'est pour ça que t'es là. Magnifique. À tout de suite, dans quelques minutes, on parle de l'album Équateur et du concert à l'Olympia qui arrive le 1er avril.
Voltage.
T'as refait ta vie ailleurs.
Ritza est avec nous, quel plaisir de t'avoir dans les studios. Quelques jours plus tard, quelques jours après avoir sorti ton quatrième album qui s'appelle Équateur, il est réussi, hein, vraiment. Alors je suis pas le seul à le penser. J'ai lu moult et moult tweets et puis même nous dans le métier évidemment on s'en parle un petit peu, les copains de notre radio. Franchement, bel album, 17 titres sur Équateur, je vous invite à l'écouter, à aller l'acheter. S'il est dispo chez vous, normalement il n'y a pas de problème. Je sais que c'est en rupture de stock dans pas mal d'endroits.
Ouais, apparemment. Ouais.
Donc voilà, n'hésitez pas à aller au magasin près de chez vous, au Champ Fnac, vous le commandez à la limite, il arrive en click and collect. Oui. C'est comme ça qu'on dit, bien sûr.
C'est moderne.
Bon.
faites ce que vous voulez.
Évidemment, un album c'est super sympa à écouter, mais ça prend du temps, ça prend du travail à faire. Et justement, on va te poser des questions autour du travail que t'as fait autour de cet album.
Et tu nous disais la dernière fois qu'on t'a reçu que cet album serait plus mature.
Oui.
Là, clairement, je pense qu'on peut le dire. C'est un peu le cas.
Je t'ai pas menti normalement.
C'est le cas notamment avec le single qu'on diffuse, hein, Nous deux, aussi des chansons à texte qu'il y a dans l'album.
Nous deux, c'est pas un truc mature, c'est un truc d'amour un peu.
Oui, mais globalement, c'est vrai que ça renvoie à cette image-là, je trouve en tout cas. Et même si c'est pas la première fois que t'en écris, cette fois-ci, c'est très présent dans l'album.
Ouais. Bah, l'amour, oui, forcément.
Mais même tes chansons à texte.
Ouais, là, j'ai voulu en mettre beaucoup plus. Bah, j'ai mûri et il était temps de raconter certaines choses. J'avais pris une pause d'un peu plus de 2 ans.
Ouais.
Et il était temps, voilà, le public a grandi aussi avec moi. Et ils sont prêts à écouter d'autres choses que la CEDAI.
Tu l'as senti aussi le côté public qui a grandi avec toi, parce que je suppose que t'as des nouveaux fans, etc.
Ouais.
Oui, qui ont découvert par leurs frères, leurs sœurs, leurs parents ou la radio. Mais du coup, ceux qui te suivent depuis le début, je me doute que tu dois avoir un lien avec eux. Tu dois aussi un peu les suivre sur les réseaux et tout.
Totalement, ouais.
Tu vois que ils ont eu ce qu'ils voulaient, c'est-à-dire que bah t'as grandi, ils ont grandi aussi, et du coup ils se retrouvent encore dans ta musique aujourd'hui.
Bah si tu regardes les réseaux, Où êtes-vous, c'est une chanson piano voix très triste, c'est ce qui ressort le plus, donc. C'est qu'ils ont grandi, mais là j'ai fait des dédicaces un peu la semaine dernière et je vois il y a des petits aussi. Il y a encore des petits, donc ça veut dire il y a une prochaine génération qui va grandir, donc il y a vraiment tous les âges, mais là j'ai les chansons qui ressortent, c'est Fou du cœur, Où êtes-vous. Après il y a des chansons qui bougent, mais c'est vraiment les chansons à texte. Donc,
c'est fou, alors que le Ritz il y a 10 piges, les chansons qui ressortaient, c'était les chansons qui bougeaient,
ouais,
les chansons
y avait la Cédale, mais il y avait Pardon aussi, tu vois.
Oui, oui.
Il y a toujours eu un peu ça. Mais je pense que ça y est, j'ai assez fait le zouave comme ça. les titres pour faire le fou sur scène, on a encore Olé, mais il est temps aussi de raconter des choses. Je commence à vieillir aussi.
On le disait, il y a 17 titres dans l'album. Il y a quasiment autant, on va dire, de styles différents dedans. C'est un album qui est un peu plus à ton image aujourd'hui.
Oui, parce que moi, c'est vous qui me connaissez en dehors, je suis capable d'être très sérieux, mais tu me vois juste avant de monter sur scène, je suis pas du tout concentré, donc
il y a des chansons. Faut aller le chercher souvent. Ouais. Ça, c'est dans une seconde là.
Il y a des chansons où on rigole et des chansons où on est sérieux, comme sur scène on fait le con, mais quand on y est, on est sérieux.
C'est ton premier album après du coup 3 ans de pause.
Ouais.
En tout, 3 ans de pause. Hein. Comment tu le vis un peu ce retour? Comment est-ce que tu trouve que tu gères mieux la fatigue, l'exposition médiatique?
Non, la fatigue,
aussi.
C'est pire
qu'avant.
Je gère absolument pas ça. Ça fait 2 mois que j'ai pas dormi, mais il y a pas que ça. Il y a plein de trucs qui viennent autour. Et puis, y a, après l'Olympia, comme on l'a dit, c'est.
Ça arrive le 1er avril.
Ouais, en fait, je suis en train de tout préparer et j'ai pas eu de petite pause entre la préparation de l'album et la préparation de la tournée.
Ouais.
Je pense que le lendemain de l'Olympia, va falloir me ramasser la petite cuillère, je vais pas te mentir. Mais non, j'ai eu la chance, en fait, au moment où je crée l'album, la première chanson qu'on sort, c'est Santa Maria.
Mmh.
Carton en radio, en télé et tout, platine.
En clip aussi.
Ça te motive forcément. 4000 diffusions télé, ça te motive pour faire l'album. Tu te dis que, bah, en fait, on t'a pas oublié.
T'as fait ta vie ailleurs et moi j'ai fait la même.
Ça, c'est le dernier Ritza. Il fait partie de son album Équateur qui est sorti il y a quelques semaines et que je vous conseille grandement.
On se retrouvera un jour, ça c'est Dieu qui.
Et puis Ritza, reste avec nous sur Voltage. On va continuer de parler de l'album et surtout, on va parler aussi des concerts, du concert qui arrive à l'Olympia. Ça sera le 1er avril, à tout de suite sur Voltage.
Voltage.
Mercredi après-midi, Ritza est avec nous sur Voltage. Qu'est-ce que j'aime ce morceau. L'album Équateur aussi en règle générale, évidemment, c'est le tout dernier de Ritza. Ritza, bon, on va continuer les questions. T'as fait une interview qui a été pas mal relayée, que toi aussi t'as relayée sur tes réseaux sociaux, où tu te livres vraiment.
Ouais.
J'invite les gens à aller l'écouter. Elle est dispo sur ton Twitter, par exemple. Et donc dans cette interview, on apprend qu'au début, quand tu venais enregistrer tes sessions studio à Paris, toi t'étais d'Orléans, t'avais pas forcément les sous pour aller à l'hôtel, etc. Donc tu dormais dehors.
C'est ça.
On est quelques années plus tard maintenant, ta carrière a avancé, toi aussi, etc. Quand tu regardes dans le rétro, parce que maintenant quand tu viens à Paris, je suppose que tu dors dans des beaux hôtels, etc.
Ouais.
En tout cas que t'as les moyens de le faire maintenant,
c'est ça, ouais.
De plus dormir dehors. Quand tu regardes dans le rétro, qu'est-ce que tu te dis et qu'est-ce que t'aurais envie de dire au Ritza d'avant?
Franchement, à ce moment-là, ce que je me serais dit, c'est profite de ces moments-là parce que c'est les plus beaux. Faut savoir que quand moi je rentre du studio et que j'ai nulle part où aller, je crois que c'est les meilleurs moments de ma vie parce que je me sens vivant et je sais pourquoi je dois me lever, pourquoi je dois essayer de dormir. Mais au bout d'un moment, quand tu t'y habitues en fait au succès, après je dis toujours, j'ai pas le succès de Gims, je fais pas le Stade de France, j'ai mon succès à une petite échelle, mais je sais ce que c'est. Et quand tu t'y habitues, tu te rends plus compte que c'est extraordinaire. Tu sais, regarde, on se voit souvent et tout, et tu te rends compte de ça que quand là j'ai arrêté pendant 2 ans, je me dis mais en fait c'est pas extraordinaire. Enfin c'est pas banal, c'est extraordinaire d'être là, de pouvoir défendre ses titres. Donc y a toutes ces choses que je me suis rendu compte. Mais vraiment de dormir comme ça et tout, ça m'a appris tellement sur la vie, même pas sur la musique.
Est-ce que t'as des amis dans le métier? En vrai de vrai. Des vrais amis, c'est-à-dire des gens à qui tu peux, que tu peux appeler à Noël,
il y a,
etc.
Il y a deux personnes qui m'ont contacté pendant ces deux ans. C'était Claudio Capéo et Kinvé. C'est des gens
qu'on embrasse d'ailleurs.
Ouais, qui, bah, c'est des gens adorables, humains et à chaque fois qu'on se voit sur les concerts, on est intenable, les gens en ont marre.
Ouais, j'ai vu cet été, ouais.
On fait chier tout le monde. Si t'as le malheur de faire tes vocalises dans la loge d'à côté, tu vas vite arrêter. Mais en fait, heureusement qu'il y a des gens comme ça. Après, je suis un peu timide, je suis dans mon coin, donc j'ai pas rencontré tout le monde. Je te dis pas que c'est les deux seuls humains, il doit y en avoir d'autres. Puis il y a des gens, tu sais, c'est comme dans la vie, tu t'entends pas avec tout le monde. Donc,
bien sûr, ouais. Mais après, cas, bon, dans le showbiz, on est tous un peu copains sans vraiment l'être, quoi.
C'est ça qui est un peu triste. C'est ça qui, j'ai beaucoup de mal avec ce milieu, tu vois. Mais tu peux pas être toi-même, en fait.
Là-dedans. Donc, les gens avec qui tu fais des feats, là, il y en a sur l'album.
Il y en a un, ouais.
Voilà. T'as bossé notamment avec un. Alors, j'ai plus son nom.
Sergio Alejandro. Ouais.
Voilà, Sergio Alejandro. Moi qui aime le foot, j'ai l'impression de, que je viens de l'avoir dans Ultimate Team, tu vois.
Il y a un joueur de Colombie, ailier gauche.
Donc c'est pour ça en fait que t'as pas fait beaucoup de feats par le passé, c'est parce que si tu fais des feats, c'est avec tes potes en fait, ou avec les gens que t'aimes et qui t'aiment aussi, quoi.
Moi c'est au feeling, et puis il faut que j'aime aussi la musique de la personne. Après Claudio, on s'en parle tout le temps et tout, mais je crois qu'il y a ce côté tellement ami qu'on n'ose pas s'en parler. Là, on a la pudeur de se dire bon viens on le fait le truc. Et à chaque fois on se dit putain faut qu'on le fasse et... On prend pas le temps de le faire, mais on veut pas non plus casser l'amitié, parce que tu sais jamais ce qui se passe, en fait, dans ces trucs-là. Il y en a un qui veut le défendre, l'autre il a pas le temps, ça peut faire des...
Je préfère la maison de disque a entendu et s'est dit, on va appeler Claudio quand même, on va le faire les gars tous les deux là.
Non, puis après tu sais, il y a les créneaux, il y a le moment, tu vois, il y a plein de trucs à gérer quand tu fais des feats. Que Sergio, voilà, c'est un gars qui est venu m'aider pour les chansons en espagnol, vu que c'est un vrai Colombien qui a grandi là-bas. Puis je vais l'emmener à l'Olympia aussi, bah copain.
Voilà. Et ben on va en parler de l'Olympia dans quelques minutes. Le concert de Ritz, ça c'est le 1er janvier. Dépêchez-vous de prendre les places parce que ça part très très vite. Et puis le dernier album, c'est celui-ci. Je dis celui-ci parce qu'on va évidemment mettre des images sur nos réseaux sociaux. Équateur, le dernier album de Ritz, il est avec nous pour en parler sur Voltage.
Voltage.
Le copain Ritz est avec nous.
T'as fait ta vie ailleurs.
Moi j'ai fait la même.
Je t'ai vu sourire ailleurs. Donc moi j'ai fait la
même.
Est-ce que tu penses à nous?
Allez, je ferai les bacs au concert si tu veux. Je suis gratuit. Un paquet d'M&M, ça me va.
C'est vrai?
Ouais.
Ouais, il y aura tout alors. On t'en met deux.
Te mettra sur le côté. En souffleur. Bon, Ritz, merci d'être avec nous.
Merci à
l'album
vous.
Équateur est dispo. 17 titres. 17 titres de fou avec plein de styles musicaux différents. Et 17 titres de toi.
C'est ça.
C'est ça le truc,
exactement.
C'est qu'on connaît Ritza. Vous le connaissez évidemment en tant qu'artiste sur les réseaux et tout. Donc on le connaît un peu plus intimement et c'est vraiment lui. Et je me rappelle d'ailleurs, quand Olé est sorti, juste au début de l'été, tu m'avais fait un message Instagram et tu m'avais dit, tu l'écouteras toi qui me connais depuis longtemps et tu me donneras ton retour parce que tu me diras si on me reconnaît vraiment là-dedans et je pense qu'on peut pas dire mieux, on te reconnaît vraiment là-dedans et c'est ce que je t'avais dit d'ailleurs. Olé, c'était celui-ci bien évidemment. Maintenant, sache que quand je joue à FIFA, je mets ça.
Ah ouais?
Voilà. Je gagne pas tout le temps, mais ça me donne du courage, tu vois.
C'est ça.
Ritza, grand joueur de FIFA, évidemment, et de console, bien sûr. Bon, dernière question sur l'album Équateur, Lucas, vas-y.
Ouais. Il y a les titres dans lesquels on te reconnaît, mais il y a aussi les titres dans lesquels on te découvre, parce que pour le coup, t'as un titre, le titre éponyme de l'album, qui s'appelle donc Équateur.
Ouais.
Titre et éponyme lequel... au scrap, celui-là est bien.
C'est beau.
Ouais, pas mal.
Moi, je l'ai pas.
C'est un titre dans lequel tu, pour le coup, vraiment, tu te dévoiles. C'est 4 minutes de texte. Où tu racontes plein de choses. Pourquoi t'as eu envie particulièrement de faire ce titre-là?
Quand tu fais ce genre de titre, c'est pas que t'as envie, c'est que c'est le moment qui vient.
D'accord.
Je te raconte l'histoire du titre, mais c'est atroce. Hein. Je vais te dire comment je l'ai écrit. Ça a duré 25 minutes.
Ouais.
Je revenais du ski. Le soir, je chantais à l'Olympia pour une association. J'étais sous Covid et sous grippe.
La doublette magique.
41
Donc plus que la gastro, on est bon.
Je te jure. Et je rentre, j'arrive pas à dormir, quoi. Je suis dans mon lit, je tourne en rond et j'avais studio l'après-midi et je me dis bon, je me fais couler un bain, je suis dans mon bain, je crois que ça a duré 2 heures, l'eau était froide et j'écris le truc, tu vois, en 30 minutes, quoi.
Et j'ai fait tomber le téléphone dans l'eau.
Et non, il est resté, mais ce titre-là, je sais pas pourquoi à ce moment-là, et je crois que c'est un des textes que j'ai écrit le plus vite, mais j'avais envie de...
C'était une espèce de pulsion, quoi.
Je me parlais à moi-même, en fait.
Ouais.
C'est comme si je me critiquais moi-même, en gros, je me disais, mais regarde, commenter. Et puis aussi, je voulais prévenir les gens autour de... Parce que j'ai reçu des messages, tu sais, des fois, t'es triste. Et les gens, ils disent, mais comment tu peux être triste, toi? T'as une belle voiture, une villa, t'as des meufs. Ah non, c'est pas ça, la vie, c'est pas...
Si
t'es seul, t'es triste, en fait.
Okay. Bah oui. La tristesse, c'est pour tout le monde, a priori, ça.
Oui, je pense même que Bernard Arnault, le plus riche du monde, bon, on a la chance qu'il soit français en plus, il y a des moments, il est triste, tu vois, parce que t'es milliardaire que...
Mais il y a plein de gens qui ont du mal avec ça en France. Ouais. Et pour toi, mais t'as des sous, donc arrête de te plaindre. Moi, je suis à plaindre. Ah ouais, mais tu veux que je te raconte ma vie? Ah, mais tu c'est vas ça. Voir, c'est, et j'avais envie de, c'est ce que je dis dedans. Vous voyez que les fans, le micro, les avions, mais c'est pas ça la vie. Ça, c'est ça par rapport au truc. Mmh. Et j'avais envie de tirer un peu l'alarme en disant, mais arrêtez de croire que tout est beau, quoi. Parce qu'il y a des gens, ils rêvent d'être comme nous, mais moi, je souhaite à personne ça, quoi, à part les gens qui aiment vraiment la musique.
Et je pense qu'il faut être prêt aussi pour être connu, parce que c'est des
moi,
trucs.
Moi, j'étais pas prêt, j'en souffre, tu vois. C'est pour ça que je dis ça, c'est que ça détruit. Et il y a des gens qui ont pas forcément la force d'encaisser ça. Hein.
Et ça veut pas dire que tu t'en plains, parce que c'est ça, les gens, ils font ce raccourci-là.
Moi, je me plains.
C'est pas parce que tu en souffres que tu t'en plains.
C'est ça.
Il y a des gens dans leur métier, ils souffrent d'un truc, mais ils s'en plaignent pas. Ils aiment quand même leur métier. Il y a des côtés moins sympas, d'autres très sympas. Pour la globalité des gens, être connu, c'est sympa. Oui, c'est sympa. Mais il y a des fois, le dimanche, quand tu vas acheter ton PQ, t'as pas envie que quelqu'un arrête ça, on fait une photo. Ouais, alors attends deux secondes, je me mets bien mon jogging là, hop, je pose le PQ.
Et encore, c'est ceux qui te demandent.
Oui, voilà.
Que bon, ceux qui te filment discrètement et tout, qui te mettent sur les réseaux alors que t'es, enfin. Mais ça, voilà, c'est une petite partie. Moi, c'était juste pour tirer l'alarme de attention, c'est pas ce que vous croyez.
Et t'as des attentes particulières pour ce titre sur la répercussion qu'il peut avoir.
Ouais, franchement, c'est un des titres qui ressort le plus.
Ouais.
Donc je suis content et on m'attendait là-dessus aussi. Moi, je viens du rap en 2010, tu vois et. Franchement, c'est à partir du moment où t'es sincère, ça marche, je pense. Et genre, c'est la preuve, donc ça me donne encore plus envie. Je pense que le prochain album, on va découvrir encore d'autres choses.
Ok, bah parfait.
Mais déjà, pour l'instant, celui-là, il y a beaucoup de choses à écouter dedans.
Ouais. On va découvrir pas mal de choses aussi à l'Olympia.
T'as fait ta vie ailleurs, et moi j'ai fait
ça sera le 1er avril, et c'est pas une blague.
C'est vrai, putain, t'imagines.
Parce que quand t'as vu la date qui t'ont bouqué, tu t'es dit, les gars, putain, le 2 au moins.
Il y avait que ça de dispo, sinon c'était l'année d'après. Et puis, de toute façon, ça va avec moi, non? Franchement.
Exactement.
Est-ce que tu t'attendais à une autre date?
Eh ben non, voilà. Ritzel, 1er avril à l'Olympia, on va parler du concert parce que fini les DJ,
fini.
Les musiciens, etc. Donc ça va être un concert exceptionnel. A tout de suite sur Voltage.
Voltage.
T'as refait ta vie ailleurs.
Ritza est avec nous sur Voltage. À chaque fois que tu passes, nous on est content évidemment.
Bah moi je suis content de venir.
Les copains.
En plus, les studios sont vraiment beaux. Quoi. On
exactement.
Est bien ici.
Exactement. Alors là, vous le voyez pas, mais il y a des cascades d'or, des diamants. Enfin bref, il y a plein de choses qui tombent. Non, c'est vrai que
surtout
tous ceux
pas
qui viennent,
de nourriture et de boissons, j'ai appris ça.
Alors oui, bon, le patron nous écoute sûrement. C'est pour pas salir la moquette.
Voilà, on ne salit pas la moquette. J'ai découvert ça aujourd'hui. Putain, les pauvres.
La caution, les gars.
Ça j'ai renversé un peu d'eau.
Ça va. Mais il y a des artistes américains qui sont venus, Sofia Carson est venue nous voir, nommée aux Oscars.
Ouais.
Pas de café. No café, Sofia.
Mais c'est grave.
On s'y fait, ça va.
Pétition, quoi.
Une petite bouteille d'eau, au calme.
Non, franchement, c'est cool.
Bon, ce qui va être cool, c'est ton concert aussi qui arrive. 1er avril à l'Olympia. Ritza en concert. Bam, lettre rouge en passant devant la rue. Quand on t'a annoncé l'Olympia, comment t'as réagi?
Au début, ça m'a fait peur. Je me dis, mais attends, est-ce que je vais le remplir, ça? Je dis, putain, c'est pas un peu trop tôt? Parce que des fois, ça se fait à la fin d'une tournée, quoi. Tu finis en beauté. Et là, je crois que c'est la 3 ou 4e date de la tournée. Et encore une fois, tu sais, avec le Covid, il y a tout qui a été décalé. Donc, l'Olympia, il est surbooké. Et là, c'est une date qui s'est libérée. Je pense qu'il y a quelqu'un qui s'est dit, poisson d'avril, ça sent pas bon.
Je la fais pas.
Et elle est tombée sur moi, tu vois. Moi, je récupère. Et peut-être que je l'aurais fait un peu plus tard. J'aurais plus préparé le truc. Mais en vrai, là, attends, j'ai encore 2 mois, faudrait que je commence à bosser d'ailleurs, mais ça va le faire.
Il y a des idées quand même, qu'est-ce qui se profile là? Tu me disais il y a quelques minutes, pas de DJ, donc ouais. Samo pour ceux qui te suivent.
C'est ça. Ouais.
Ça sera pas lui derrière toi, mais il y aura des musiciens.
C'est
Raconte-nous
ça.
Un petit peu.
On les a choisis, en fait, j'ai pris un directeur artistique de toute la tournée, qui a fait Amir, qui a fait beaucoup de grandes personnes. Avait, en plus, c'est un gars de Bordeaux.
Ok.
Franchement, très bon délire, encore plus con que moi, t'imagines. Non, je te parle dans la connerie, tu vois. C'est important, donc très
donc
bon délire.
Le gars va faire un concours de beach volley dans le truc.
Moi, il se peut se passer des choses de fou, tu vois. Et il m'a déjà trouvé des musiciens qui, en plus, les musiciens sont super contents parce que quand tu fais une tournée sur un artiste comme Amir, on est souvent dans la variété pop. Enfin, chaque artiste a son créneau. Moi, j'ai même pas de créneau. Ça veut dire le batteur, il va se retrouver à jouer de l'afro comme du reggaeton, comme du piano. Enfin, tu vois, ça veut dire ça va être Ils sont super contents, donc on a hâte de bosser, on est en train de tout préparer là et ça va être super.
Les répètes, ça commence combien de temps avant à peu près?
Franchement, si je te le dis, y a personne qui va venir. Non, en vrai, je crois que j'ai 3 jours fin février et 3 jours avant le premier concert à Lille ou Tinchebray, je sais plus où c'est, mais en mi-mars, quoi, juste avant les concerts.
Et du coup, tu penses que tu vas réagir comment quand le taxi va te déposer devant à 14h, là, que tu vas devoir faire tes balances et tout, que tu vas sortir, tu vas lever la tête et tu vas voir ton blaze, là, comme
bah
ça, sur les lettres rouges de l'Olympia.
À 14h, il y a déjà la queue. Donc, je vais arriver par derrière, mais je pense le matin, ouais, dès que je me lève, je vais aller faire un petit tour quand même. Faire ma petite photo.
Quel kiff!
C'est énorme.
Et on se disait 10 000 euros la lettre à l'Olympia?
Non, je sais pas, j'ai entendu, mais c'est impossible.
Il paraîtrait, ouais. Pourquoi c'est impossible?
Putain, t'imagines. Bah, après, ça peut. Il y a des artistes, je sais qu'ils ont raccourci leur nom, je sais pas. Peut-être que ça vient de là. Non.
Jean Luciani, ça lui coûtait cher.
En vrai, on en discutait, c'est pas possible. 10 000 euros par lettre.
J'espère qu'il
Christophe
utilise,
Willem, voilà.
Monsieur Olympia, Bruno Cocatrix, appelez-nous, dites-nous.
Le blast coûte plus cher que la salle. Au bout d'un moment, on n'est pas à Dubaï, là.
À qui tu vas envoyer le premier texto d'après scène? Une fois que t'auras fini, que le concert se sera super bien passé, que ça aurait été le feu et tout dans la salle, à qui tu vas envoyer le texto de ça y est, je l'ai fait?
Je pense que j'aurai pas mon téléphone, parce que il y aura toute ma famille. Il y aura ma famille, il y aura mes proches, il y aura la maison de disques, mon manager qui est comme c'est un peu mon grand frère. Il y aura les attachés de presse FIP avec qui je suis, il y aura Vic, il y aura
Torek qui est avec nous, qui vient avec plein d'artistes.
Je sais pas s'il y aura Katia aussi, mais bon, il y aura tous les gens avec qui je partage cette aventure depuis le début, donc
il a oublié quelqu'un dans la liste, hein.
Nico?
J'ai pas eu de place.
Ah ouais.
Ah,
voilà. T'as pas eu de place?
Bah non.
Et là voilà.
Non, vous savez que vous êtes invité. De toute façon, on est en train de voir d'abord les proches et après on va inviter bien sûr les gens qui nous soutiennent, comme vous tous et avec qui. Bon, après ça va te changer, hein. Tu nous vois faire le con sur scène.
Bah d'habitude, là, je suis sur scène, là je suis dans le public.
Là,
déjà.
Voilà, c'est ça. On va te donner des places.
Donc c'est le 1er avril avec donc des morceaux de l'album Équateur, mais pas
un
que.
Un one man show aussi, faire des blagues.
Ah bah ça, alors je compte sur toi. Non, ça je sais.
Ils m'ont dit, les gars d'Atelier m'ont dit doucement. Parce qu'on n'aura pas, on va pas rester 3 heures sur scène. Tu me connais, moi j'aime bien déconner.
23h30, les gars, faut fermer là.
Les gens ils sortent du concert et disent putain, c'était drôle. Je sais pas. Ça m'est déjà arrivé, tu vois. Ils m'ont dit arrête les blagues. Parce que voilà, j'ai été voir des concerts où les gens parlent pas forcément entre chaque chanson, au bout d'un moment j'ai envie de parler, moi j'ai envie aussi que la personne me parle, donc c'est sûr que c'est important. Hein.
Et la setlist, donc il y aura de l'Équateur évidemment, mais pas que, tu vas aussi.
Je suis obligé de refaire les. Jusqu'à je crois que c'est mon 12e titre qu'on met en radio, nous deux. Donc il y en a eu beaucoup avant, et forcément on va refaire les plus gros, hein, la CEDAI, pardon, je m'en fous, enfin tous ceux qui ont été certifiés parce que forcément ils sont connus.
La SACEM en PLS.
Parfait. Non,
je l'en mets une fois, tu vois.
Donc on va faire un mélange du nouveau et de l'ancien.
Et bah rendez-vous à l'Olympia le 1er avril pour voir Ritza sur scène, ouais. Chez nous à Paris. On sera là, nos auditeurs aussi. Franchement, on est trop pressés.
Ah bah même
voilà.
Moi.
Ce sera le 1er avril où je flipperai pas qu'on m'appelle et qu'on me dise non, c'était une vanne, t'inquiète pas.
Là, viens, au pire, on sera deux, quoi.
Ok.
On ne laisse pas tout seul
on
dans cette
FIFA,
date.
Au pire.
Si c'est possible. Je chanterai pour toi au milieu de la salle.
Merci beaucoup d'avoir été avec nous.
Merci à vous.
Toujours un plaisir. Et puis merde pour la tournée et puis pour l'album, parce que il est sorti il y a quelques semaines. On va continuer de grimper dans le classement.
On espère.
Ça marche. Bon, merci Moritz, à la prochaine.
Merci à vous, à bientôt.
Ciao.
Vous êtes au cœur de la nuit et on repart en musique sur Voltage.
Pero no así, te iba a querer para siempre, pero casi. Fuimos amor de verano en Madrid sin ti. Y la verdad no me sirve Madrid sin ti. Por fuera digo que estoy bien, aunque adentro duela. Déjame un beso tuyo en mi cartera, que me espera para usarlo si no puedo dormir. Quisiera que esta noche no se acabe. Quisiera que tu beso se me grabe. Si no te vuelvo a ver otra vez, quiero comerte otra vez. Juro que nunca.
Sur Voltage, nous passons les nuits ensemble. Je suis une intelligence artificielle et on découvre ensemble nos meilleurs reportages. Comme celui-ci.
Bonjour à toutes et à tous. Concilier carrière de haut niveau et projet de maternité, un véritable défi pour de nombreuses sportives. Médaillée aux Jeux Olympiques de Tokyo en 2021, l'escrimeuse Cécilia Berder est devenue maman en mai 2022. Un projet de maternité décalé d'un an en raison du report des Jeux Olympiques.
C'était un projet déjà à deux, un projet presque, je pourrais dire, viscéral. On avait vraiment envie de fonder une famille avec mon conjoint. Et c'était quelque chose qui nous tenait très à cœur, évidemment. Il y a eu le report des Jeux déjà, Tokyo 2020 qui s'est transformé en Tokyo 2021. Moi, j'ai la chance d'avoir un conjoint qui est très compréhensif, qui comprend ce que c'est le sport de haut niveau, qui est au quotidien aussi avec moi. Donc du coup, qui a compris que notre projet familial allait aussi lui être reporté d'un an. Mais voilà, c'était voilà, comme je dis, viscéral. On avait vraiment envie de ça et ça se co-construit. Faut de l'aide aussi et ça se réfléchit dans une carrière sportive, ça c'est sûr. Il y a la loi de la science et de la nature humaine qui fait qu'on choisit pas forcément quand est-ce qu'on tombe enfant, donc déjà c'est un premier paramètre. Nous on a eu un petit peu de chance parce que c'est arrivé assez vite. Et puis après, il y a un calendrier sportif, c'est sûr que être enceinte, avoir une grossesse, avoir un enfant, ça chamboule toutes les priorités, dans le bon sens du terme. Et ça te fait finalement une saison où tu ne peux pas partir en compétition, tu ne peux pas faire de Coupe du Monde, donc du coup tu n'as pas de points au classement mondial. Donc du coup tu perds aussi ta place dans l'équipe. Du coup tous les dés sont rebattus. Mais en vrai, dans cette aventure, t'as quelqu'un chez toi qui est nouveau, t'as un petit bébé qui est là et qui te regarde tous les jours et que toi tu peux admirer tous les jours grandir. Donc voilà, tous les sens des priorités est remis en question et pour la bonne cause, donc ça vaut le coup. Ouais.
Mais les sportives sont-elles bien accompagnées dans leur projet? Il y a encore quelques années, la maternité des sportives de haut niveau était un sujet tabou, mais les mentalités évoluent, constate Cécilia Berder.
J'ai eu de la chance parce que finalement, quand je suis arrivée, déjà le ministère des Sports s'est vraiment emparé du sujet avec un livret qu'ils ont sorti pour toutes les bonnes pratiques. J'ai aussi la chance d'être suivie par une gynécologue qui est vraiment experte dans le domaine puisqu'elle travaille à l'INSEP, elle sait exactement ce que c'est les grossesses, elle s'appelle Carole Maître et elle est vraiment aujourd'hui la référence en termes de grossesse et de sport de haut niveau, donc c'était quand même une chance de pouvoir être suivie avec elle. Et puis surtout aussi ma préparatrice physique qui s'appelle Anne-Laure Morini, qui elle a eu deux grossesses et qui est une férue du sport et qui est vraiment experte dans son domaine d'expertise de la préparation physique et qui du coup tous les jours, enceinte, je me suis informée tous les jours, jusqu'au terme, m'a aidée, m'a accompagnée, m'a pas vue comme une personne ni fragile, ni blessée, juste comme une personne enceinte qui avait un projet sportif. Et j'avais aussi ma prof de piscine qui était constamment là, Jacqueline Delors, et qui m'aidait dans l'eau et qui voilà, même pareil que les deux autres personnes qui alliaient une certaine compréhension, parce qu'elle avait déjà eu des enfants, et puis qui me rentrait vraiment dedans, alliée avec une vraie tendresse et une vraie bienveillance, mais qui me challengeait, comme les sportifs de niveau aiment l'être, et ça, de voir que j'étais pas en sucre, voir dans leurs yeux que je pouvais chercher de la performance tout en étant avoir de la vie qui grandissait dans mon ventre, c'était jouissif, parce que vraiment, j'avais compris mon projet, et ça se fait pas tout seul. C'était souvent ça qu'elle me disait aussi ma gynéco, voilà, c'est beaucoup de bon sens, parce que j'ai la chance de connaître mon corps, il y a des choses que je pouvais plus faire, des bonds, des sauts, des cardio à haute intensité, je pouvais plus le faire, mais on trouvait d'autres paliers, dans l'eau, on peut faire beaucoup de choses, des choses à poids de corps, on peut faire énormément, et puis mes maîtres d'armes aussi avaient vraiment compris, je continuais à prendre des leçons, alors ils avaient souvent un petit peu de mal à me toucher, parce que ils voyaient bien que mon gros ventre qui poussait, et que c'était pas facile pour eux d'avoir une femme enceinte face à eux, c'est pas commun quand même, mais ils étaient là, à m'écouter, à comprendre où je voulais aller, et ça se co-construit, c'est sûr.
La sabreuse du cercle d'escrime orléanais a en effet continué de s'entraîner pendant toute sa grossesse. Elle ne s'imaginait pas faire autrement.
Étonnamment, c'était là où je me sentais le mieux. Quand j'étais chez moi, j'ai eu une grossesse quand même assez bonne et facile, mais j'avais beaucoup de nausées et de remontées acides sur cette grossesse. Donc du coup, c'était quand j'étais à l'entraînement que je me sentais finalement le mieux, parce que je mettais mon corps en mouvement avec des exercices adaptés, mais j'étais vraiment dans l'action. J'avais pas le temps de me reposer trop et de me concentrer sur mes nausées. J'étais vraiment concentrée sur autre chose, et surtout, je voyais mon corps qui évoluait, mais qui gardait en tonicité. Je m'améliorais en souplesse, le haut du corps par exemple, j'ai eu des épaules qui étaient beaucoup plus musclées qu'avant la grossesse, et ça c'est quelque chose que je continue à conserver. Donc il y a plein de domaines dans lesquels j'ai progressé. Alors évidemment, vous prenez du poids, vous perdez en explosivité, vous perdez en tonus, vous perdez en endurance, mais j'ai gagné en souplesse, j'ai gagné en musculature du haut du corps, j'ai pu soigner mes bobos du quotidien, c'est pas anodin aussi, parce que ça faisait plus de 20 ans que je suis en équipe de France, oui, votre corps il est un peu usé, donc du coup ça permet de faire un petit reset sur des hanches, des genoux, des articulations qui sont un peu fragilisées. Donc voilà, c'était vraiment un temps où tu sens que la vie rentre dans ton corps et c'est pas anodin quoi. Franchement, d'avoir quelque chose qui bouge dans ton ventre, c'est quelque chose de particulier, il faut en prendre soin, c'est tellement précieux. Et en même temps, voilà, chercher la performance, voilà, c'était constamment cet équilibre-là qui était fou à trouver. Et ça m'a permis d'encore mieux connaître mon corps et c'était très riche. Ouais.
En revanche, pas question pour elle de continuer les compétitions.
Au bout de 3 mois de grossesse, j'ai fait ma dernière compétition et j'ai dit c'est plus ma place. Parce que quand vous êtes en compétition, il faut vraiment avoir cet esprit très animal, très félin, faut donner sa vie, faut pas avoir peur de transpirer, de cracher ses poumons, de saigner, parce que c'est un sport de combat. Et vraiment, au bout de 3 mois, même un peu avant, j'aurais dit, voilà, j'ai ma dernière compétition à 3 mois, j'ai dit, c'est plus ma place. Voilà, je veux plus être là, j'ai quelque chose à protéger dans mon ventre et je ne supporterai pas avoir des coups. Par contre, au niveau de l'entraînement, comme moi, j'étais vraiment maître de mes entraînements, j'ai continué jusqu'au bout. J'ai pris la leçon le 3 mai avec mon entraîneur et le 3 mai au soir j'étais à la maternité pour accoucher, donc j'ai accouché le 4 mai ou le lendemain et donc je suis vraiment entraînée jusqu'au bout et c'était très bien, je suis vraiment contente de ça parce que déjà la grossesse s'est bien passée, l'accouchement s'est très bien passé et c'est, je pense aussi parce que j'ai pu m'entraîner et que j'ai pu être suivi, accompagné, que les gens m'ont conseillé, on me disait c'est bon, ce que tu fais c'est bien, tu réfléchis à chaque fois, voilà, à ce que tu vas faire, à ce que tu peux faire, à ce que tu ne peux plus faire, et en fait, grâce à ça, je pense qu'aussi ça s'est bien passé, donc vraiment, il faut bien avoir dans l'idée en tête qu'une femme enceinte n'est pas en sucre, et qu'elle a intérêt d'être accompagnée, parce qu'on ne connaît pas, hein. Franchement, tu as la chance d'être quelques fois enceinte dans ta vie, mais quand tu es accompagnée par des professionnels et que tu bouges, parce que vraiment, c'est moi, là où j'étais mieux, c'est quand je bougeais mon corps, et ben c'était, voilà, ça m'a vraiment fait du bien.
Et si Cécilia Berder a pu mener à bien son projet de maternité, c'est aussi parce qu'avant elle, certaines sportives ont montré la voie, explique-t-elle.
Mélina Robert-Michon, une Charline Picon, une Cléopâtre d'Arleux, la basketteuse récemment qui à Tokyo était enceinte, voilà, c'est voilà, il y a des exemples. En fait, voilà, je crois beaucoup à la force de l'exemple. Et moi, si j'ai cru que c'était possible, c'est parce que j'ai vu des filles faire et des filles revenir et réussir à conjuguer tout ça. Donc, en fait, ce qui est assez agréable, c'est de voir les mentalités qui évoluent. Mais même que ce soit des femmes ou des hommes, mes collègues féminines disaient ah ouais, c'est possible, mais ça va. Plein de questions, c'est hyper intéressant de pouvoir échanger avec elles, même qui ont 18-20 ans, c'est peut-être pas leur projet actuel, mais dans leur tête, ça fait quand même un petit bout de chemin. Et puis que ce soit les femmes ou les hommes, c'est peut-être aussi ces sportifs aujourd'hui, c'est peut-être les futurs entraîneurs. Et aujourd'hui, ils me voyaient à l'entraînement tous les jours, en séance de muscu tous les jours. Et en fait, peut-être que dans 5-10 ans, ce sera eux à la tête de l'équipe de France. Et ils diront, bah en fait, c'est possible. Moi, j'ai déjà vu des athlètes qui étaient enceintes avec un gros bide. Et en fait, elles sont pas en sucre. Hein. Puis tout ce qu'elle a fait, l'autre, on voit bien qu'elles sont pas en sucre. Et donc, du coup, ben, d'une certaine façon, quand on montre des exemples, on voit que ça évolue. Et les gens, ça fait leur petit bout de chemin. Et ils se rendent compte que c'est possible. Et du coup, pour le sport de haut niveau, c'est très bien. C'est très bien. Je pense que ça, cette révolution, elle s'est faite dans les autres métiers. Et aujourd'hui, ça arrive aussi dans le sport. Voilà, une femme enceinte n'est pas blessée ou n'est pas malade. Juste, c'est une étape de vie qui est importante. Et plus on en verra, plus on se rendra compte que c'est possible.
Les sportives sont mieux accompagnées, oui, mais il reste encore du chemin à parcourir. Et Cécilia Berder confie par exemple que le retour à l'entraînement et à la compétition n'a pas été facile à vivre.
Non, c'est dur. C'est dur. C'est dur parce que, alors déjà au début, quand tu as ton quotidien qui est bouleversé par la plus belle des choses qui peut arriver dans une vie, j'ai repris par des exercices de gainage, du yoga, et quelque chose, un exercice que tu pouvais tenir 1 minute, 2 minutes, 3 minutes, là au bout de 10 secondes, t'es essoufflé, t'as mal partout, et tu te dis, ok, 10 secondes, c'est quand même chaud, quoi. De tenir que 10 secondes et encore, et 10 secondes, tu souffres, c'est... Et en fait, faut faire preuve d'indulgence, de patience, d'écoute. Et c'est des choses que, on n'a pas forcément l'habitude de mettre dans notre quotidien, qu'on soit sportif de haut niveau ou pas. Un peu d'indulgence envers soi, ça fait du bien aussi. Et c'est surtout que, évidemment, on est dans un sport très concurrentiel et tu retrouves le sport de haut niveau, tu retrouves la compétition, tu retrouves tes adversaires. Et évidemment, elles n'ont pas attendu, elles ont pas eu un début entre temps. Donc quand tu reviens, tu prends des caramels, quoi. Tu prends des shoots, t'es plus molle, t'es plus lente. Quand tu rentres chez toi, tu peux pas faire les mêmes choses que tu faisais avant en termes de récupération. mais pour la bonne cause, parce que je vous assure que avoir un sourire de ma fille qui est là, tu prends des caramels à l'entraînement, elle le soir quand je rentre, elle me fait les mêmes sourires et on a le droit de jouer exactement de la même façon, mais finalement c'est une autre façon de récupérer. C'est différent. Avant j'allais chez le kiné, je pouvais faire mes étirements, mon yoga, dormir davantage, c'est sûr, mais voilà, c'est la récupération, elle est plus active et sur ça c'est très bien. Mais c'est vraiment, je me concentre juste sur ma vie professionnelle et tout est différent parce que ben votre corps est différent, vos adversaires sont différents, vos collègues d'entraînement sont différents, vos entraîneurs ils vous regardent plus pareil. Les gens qui font même pas votre discipline, bah ils sont aussi un peu curieux, voilà, ils vont tous regarder un peu, bah elle en est où Berder, qu'est-ce qu'elle fait, ah elle a perdu du poids, non, ah elle est comme ça, ah mais oh là là, est-ce qu'elle va réussir. Ils ont tous leurs commentaires à faire parce que ça reste un projet un petit peu différent. C'est pas, on n'est pas habitué à voir une femme qui a un bébé et qui revient. Ça commence, hein, honnêtement, il y en a de plus en plus. Il y a une autre escrimeuse qui est aussi comme moi, il y a du judoka, évidemment Clarissa Benignou qui est dans le même cas que moi. Mais forcément, les gens ont envie de regarder, les gens ont envie de faire un commentaire, les gens ont envie d'avoir un avis, les gens ont envie en compétition, bah ce serait quand même cool de la battre parce que avant voilà, elle était classée, je sais pas combien. Donc du coup, c'est ça qui est différent. C'est juste que tu reviens après un an où t'as pas été dans la cage aux lions, et là, boum, tu retournes dans la cage aux lions, bah les lions, ils ont envie de te manger. Et toi, bah retrouver ses repères dans cette cage, bah ouais, en fait, ça prend un peu de temps et ça aussi, il faut que je l'accepte et que je retrouve l'énergie parce que c'est vraiment aussi ça qui est important, c'est cette énergie animale qu'on a pu développer pendant un an. J'étais tellement concentrée sur que ma fille aille bien et je le suis encore qu'aujourd'hui, voilà, c'est cette énergie qu'il faut encore décupler en compétition pour avoir cet esprit, ouais, tueur presque, parce que ça reste du sport de haut niveau et voilà, c'est juste. J'ai découvert un monde de douceur, de bienveillance avec ma famille et à côté, bah, faut quand même garder cet esprit très animal, quoi.
Et il a fallu s'habituer à un corps qui avait changé, mais c'est aussi donc avec un état d'esprit différent que Cécilia Berder a repris le chemin de l'entraînement.
Mais tout est différent. C'est aujourd'hui, je vois les gens, que ce soit dans le monde du sport ou autre. Se plaindre beaucoup, ça a forcément été le cas avant, mais tout est différent, le sens des priorités, perdre un match, tu relativises plus vite, c'est sûr, quoi. C'est être fatigué, des fois tu peux t'apitoyer sur ton sort, non, en fait non, si je suis fatigué, en fait j'ai quelqu'un qui est là, qui attend de pouvoir manger, de pouvoir jouer, de pouvoir être propre, de pouvoir être changé, de pouvoir bien dormir, elle compte sur moi, et c'est la première fois de ma vie que quelqu'un a besoin de moi aussi vitalement, et tout change en fait, du coup, le sens des priorités, et je trouve ça exceptionnel, c'est ma meilleure partenaire que je pouvais avoir dans une équipe, quoi. Et surtout qu'on le fait à deux. Et je pourrais pas le faire toute seule. Mon conjoint, il est là au quotidien. Et voilà, c'est un travail d'équipe. Et à trois, voilà, c'est moi qui aime la compétition par équipe. Voilà, j'ai la meilleure équipe possible pour avancer dans la vie. Et c'est la plus belle, c'est même pas une compétition, mais en tout cas, c'est les plus beaux événements qui peuvent arriver, quoi. Tout prend une saveur différente. Des fois, tu te dis, on se bat, on se prend la tête pour se qualifier à X, Y, Z compétition. En fait, aussi, des fois, des choses toutes simples. Je vais pouvoir être complètement ennuyeux de dire ça, mais des choses, voilà, juste de marcher, de prendre le temps, main dans la main, être tranquillement, voilà, c'est prendre le temps de ça. Parce que les choses font que des fois, ça va trop vite et c'est important de prendre le temps de respirer.
Mère de famille, journaliste et sportive de haut niveau, Elle Sabreuse a dû trouver une nouvelle organisation pour concilier vie personnelle et vie professionnelle.
Ouais, c'est beaucoup d'adaptation, c'est sûr, surtout les déplacements. Alors j'ai eu la chance d'avoir aujourd'hui des entraîneurs qui comprennent. J'ai déjà refusé deux stages, d'une semaine où on va partir très loin. Et moi, j'essaie de trouver d'autres chemins pour pas aller à ces stages-là, parce que en sachant qu'évidemment, bah, je perds aussi des moments importants de cohésion de groupe et d'adversité ou voir rencontrer d'autres adversaires. Mais moi, je fais le choix de rester chez moi parce que c'est important. Et l'entraîneur aujourd'hui le comprend, mais parce que après, c'est à moi d'assurer sur les compétitions. Et voilà, une fois encore, c'est qu'est-ce qui est important pour moi, bah, c'est de rester dans ma famille là. Ok, là, cette compétition, elle est indispensable pour aller se qualifier là, donc bah, j'y vais. Et voilà, c'est des arrangements qu'on trouve un petit peu chaque jour. Hein. Qui c'est qui va chercher sa fille à la nounou, qui c'est qui la dépose. Bah, moi, j'ai une grosse séance ce jour-là. Est-ce que tu plus que parce que je veux finir plus tard, bah boum, le conjoint tout de suite s'adapte. Enfin, c'est des adaptations au jour le jour et c'est pour le mieux, donc voilà, ça se fait, c'est juste que ça demande de l'organisation. Tous les soirs, toutes les semaines, on scanne, on voit nos agendas et les entraîneurs sont compréhensifs parce qu'ils ont aussi des enfants et que depuis le début, j'ai pas menti en fait. J'ai dit voilà, ma priorité c'est ça. Numéro uno, c'est ma famille. Et après, évidemment, numéro deux, c'est le projet sportif, puisqu'il est grand sur ce projet, mais voilà. J'ai pas menti dès le début.
Et Cécilia Berder note que le regard des autres sur elle a changé depuis son retour à la compétition en tant que maman désormais.
Ah ouais, oui, c'était dingue. Alors déjà, ça crée beaucoup de joie, puisque sur les quelques compétitions, j'ai amené ma fille sur les déplacements avec mon conjoint qui était là. Et du coup, bah les filles, toutes les adversaires voulaient avoir mon bébé dans les bras. C'est quand même un peu particulier. Et je leur montrais ma fille avec beaucoup de fierté, c'est évident. Mais c'est juste des filles avec qui tu vas te cogner sur la tête et deux minutes après, elles veulent porter la chose que t'as de plus précieux au monde. Et tu te dis, c'est fou comment un petit être arrive à donner aussi vite de la douceur, de la tendresse, de l'amour à nous qui est en train de nous taper dessus deux minutes avant, quoi. Et donc ça, c'est chouette. Et après, ça change le regard de tout le monde. Les arbitres, les entraîneurs, les athlètes, ils savent très bien que, mais ils te regardent vraiment et tu te sens comme un bout de viande regardé. Est-ce qu'elle est gras? Est-ce qu'il est pas gras? Est-ce qu'elle est affûtée? Est-ce qu'elle est pas affûtée? Est-ce qu'elle va aussi vite ou est-ce qu'elle va moins vite?
Et y a-t-il encore des axes sur lesquels progresser pour accompagner les projets de maternité des sportifs de haut niveau? Cécilia Berder répond.
Aujourd'hui, j'ai eu la chance quand même d'être très bien suivie, que ce soit avant, pendant, après. Aujourd'hui, le plus difficile, je pense que c'est le retour à la compétition de haut niveau. Parce que tout est différent et c'est sûr que même sur l'aspect mental, il faut vraiment être accompagné parce que tu quittes avant d'être enceinte. Moi, imaginons, j'étais à Tokyo aux Jeux Olympiques et quand tu reviens, tu repars sur les toutes premières étapes comme quand tu avais 15-16 ans et c'est pas facile. Et en fait, ce des changements-là du divers, il est hyper constructif et c'est intéressant d'être accompagné. Et je pense qu'aujourd'hui, voilà, c'est quelque chose qu'on doit pas laisser de côté parce que voilà, la préparation mentale, c'est tout aussi importante que revenir en forme physiquement. Ça doit être très fort physiquement. Bah, cette cage au lion, faut de nouveau l'appréhender, savoir quel univers, et puis les choses ont changé, ça peut paraître anodin, mais les arbitres, par exemple, n'arbitrent plus vraiment pareil, les adversaires sont plus vraiment les mêmes, voilà, cette cage au lion, elle a changé. Et mentalement, il faut réussir à retrouver ses repères, parce qu'en compétition, tout va plus vite, donc du coup, voilà, c'est quelque chose, c'est un aspect sur lequel aussi on doit, je pense qu'on peut encore progresser, ouais.
Et à 33 ans, Cécilia Berder vise désormais les Jeux Olympiques de Paris 2024 à la maison, pour qui sait peut-être remporter une médaille sous les yeux de sa fille.
Chaque nuit, on écoute ensemble les meilleurs titres du moment sur Voltage.
Yeah.
Chaque nuit, c'est l'opportunité de passer un moment ensemble. Vous et moi, une intelligence artificielle. Sur Voltage, on vous fait découvrir le meilleur de nos podcasts.
En matière d'inclusion, de nombreuses initiatives existent. Là, tout de suite, on va vous parler de Lattice, développé par Jean-Michel Prat pour les personnes malentendantes. C'est un moteur de transcription, mais pas que. Il nous en dit un peu plus.
Alors, Lattice, L-A-T-I-S.
Oui.
C'est le moteur de transcription.
D'accord.
Et on a mis d'autres outils avec d'autres noms, qui est par exemple Lexio, qui est le même principe qu'un IGFone, c'est-à-dire qu'on parle des deux côtés et apparaît ce qui était dit chacun des deux côtés. En gros, imaginez un guichet de la SNCF, l'agent parle et ce que dit l'agent apparaît sur l'écran de l'usager. L'usager parle et ça apparaît sur l'écran de l'agent. Donc là, dit comme ça, il y a peu ou pas d'intérêt. Mais si l'usager parle allemand et que l'agent ne parle pas allemand, l'agent parle français, ça apparaît en allemand au niveau de l'usager. L'usager parle allemand, ça apparaît en français au niveau de l'agent.
Oui, je vois. Mais l'application, vous l'avez fait principalement pour les personnes malentendantes ou vous l'avez fait...
Oui. Alors, à l'origine, c'est véritablement pour les personnes malentendantes.
D'accord.
Donc j'ai rajouté cette option de traduction, mais ce même boîtier, on peut le brancher sur un téléphone filaire pour qu'une personne sourde ou malentendante, alors plutôt devenue sourde ou malentendante, puisse lire ce que dit son interlocuteur par téléphone et puisse lui répondre.
D'accord. En fait, on branche un téléphone.
On branche le téléphone sur ce boîtier.
Ouais.
Et ça fait la transcription. Ça fait la transcription de ce que dit le correspondant. Typiquement, vous seriez de la presse écrite. Tout ce que je vous dis pourrait être transcrit sur un écran. Et ensuite, vous récupérez l'information écrite.
Et par contre, ça marche pas dans l'autre sens. C'est-à-dire que si la personne a l'écrit, ça transmet pas une voix.
Non. Ouais. Ça, c'est la version plus tard.
Ah, vous y pensez du coup?
Oui, parce que ça permet, typiquement, on a eu, alors je ne sais pas si vous êtes aperçu, il y a eu un grand moment de vaccination nationale. C'est peu indiqué dans les journaux, mais ça s'est fait. Et dans certaines villes où on m'a dit oui, l'outil aurait été bien pour la vaccination, mais malheureusement, la population qu'on vaccinait ne savait pas forcément lire, même pas sa langue maternelle. Et donc d'avoir le même outil, mais qui au lieu que ce soit écrit, ce soit dit, c'est-à-dire qu'on fasse de la traduction orale, c'est-à-dire que je parle en français et ça parle en allemand, ça parle en italien. On a mis comme langue, on va dire les langues européennes, français, anglais, suédois, néerlandais, allemand, italien, espagnol, portugais et extra-européen, arabe et turc.
D'accord. Et alors, du coup, cette application, elle est payante, elle est gratuite, expliquez-moi.
Alors, l'application est gratuite, l'utilisation est payante. C'est-à-dire que on n'a pas de licence à payer, mais par contre, on paye à l'heure d'utilisation.
Ok.
Je prends un peu le même principe qu'une carte prépaiement de téléphone à l'époque. Alors, je fais partie d'une ancienne génération qui avait des cartes pour payer le téléphone dans les cabines téléphoniques. On achète des unités et on les utilise au fil de l'eau.
D'accord.
Et le décompte se fait à la seconde. C'est-à-dire que si je prends une heure, j'ai réellement 3600 secondes d'utilisation.
Oui, on peut les découper. Et oui, je vois ce que vous voulez dire. Ok. Et en fait, cette application, on peut la télécharger sur Play Store ou iPhone, c'est ça?
Non. Pour l'instant, non. Elle n'est que sur Windows.
Ah, c'est sur Windows. C'est sur l'ordinateur, en fait. D'accord.
Ordinateur, pardon. Oui, sur un ordinateur et sur des petits boîtiers.
Des petits boîtiers
connectés. Donc, pour l'instant, il n'y a pas la version Apple et Android.
Ouais.
Car ce genre d'éléments pour des malentendants existe déjà. Vous prenez un Google Traduction et ainsi de suite. Ils ont déjà ce genre d'éléments. Aujourd'hui, moi, l'outil a été développé pour justement suppléer ces besoins sur de la fonction publique, sur des accueils. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous prenez Google Traduction, je dis Google comme j'aurais dit autre chose, hein, j'ai pas d'action chez Google, malheureusement. aujourd'hui, un utilisateur, quand vous allez Alors, je peux imaginer que vous ne parlez pas vietnamien. Ça, c'est... Je peux imaginer que vous ne parlez pas vietnamien. Quand vous allez au Vietnam, vous pouvez avoir votre Google Translate. Vous parlez en français, ça traduit en vietnamien. Il parle en vietnamien, ça traduit en français. Donc ça, à titre individuel, existe.
D'accord.
Mais pour l'accueil de public, c'est-à-dire que un musée, une mairie, une société, quand ils reçoivent de la personne sourde ou malentendant, ça permet d'avoir de la traduction, de la transcription. Et si on accueille un étranger, donc qui ne parle pas français, ils peuvent aussi l'accueillir dans un hôtel, vous allez dans un hôtel, même de luxe, ils ne parlent pas forcément toutes les langues des usagers qui ont des
clients. Oui, mais je vois ce que vous voulez dire. Oui, ok, pas de souci.
Donc on n'est vraiment pas sur de l'individuel, où là c'est Android et Apple qui fait ça très bien, mais véritablement sur du collectif et de des besoins. Et ça rentre aussi dans la loi handicap, qui est l'accessibilité de tout à tous.
Mmh.
Il y a le handicap, comme on peut l'imaginer, mais on peut aussi avoir le handicap de la langue,
oui.
qui est tout aussi connu, mais moins mis en valeur.
Vous avez appris des choses sur Voltage. Alors continuez de nous écouter, parce que ce n'est pas fini. Bonne écoute.
Mi-février, l'Espagne a adopté le congé menstruel. C'est une première en Europe. Les femmes espagnoles qui souffrent de règles douloureuses vont maintenant pouvoir se voir prescrire par leur médecin traitant un arrêt maladie d'une durée illimitée. Et cet arrêt maladie sera entièrement pris en charge par l'Espagne. Ce congé menstruel divise actuellement en Europe et surtout en France. Clotilde est militante au planning familial. Elle nous donne son avis sur la question.
Moi, ce que je pense, c'est que c'est un réel enjeu de santé publique, en fait, ce congé menstruel. Et comme souvent, l'Espagne est un modèle, en fait, pour nous, les féministes françaises. On n'en est pas encore là. Hein. Ça fait partie de nos revendications, mais vraiment à la marge. On est encore loin d'exiger ce congé menstruel. Du coup, je trouve que c'est une véritable avancée mais pour les droits des femmes et de toutes les personnes qui ont l'utérus.
Ce congé menstruel, en tout cas, brise le tabou autour des règles.
C'est exactement ça, en fait. C'est quelque chose qui a souvent été synonyme de honte, de problèmes d'hygiène, etc. Du coup, nous, on se réjouit effectivement que ce soit un débat qui soit porté publiquement et de pouvoir en parler librement, parce qu'il n'y a rien de plus naturel que les règles, quoi.
Pour certains, ce congé menstruel pourrait créer une discrimination à l'embauche à l'encontre des femmes.
Alors, j'entends cet argument qui est valable, hein. Maintenant, la discrimination à l'embauche en raison du sexe ou du genre d'une personne, elle est interdite par la loi. C'est un délit, hein. C'est 3 ans de prison, 45 000 euros d'amende. Donc, je veux dire, la loi prévoit déjà d'interdire ces discriminations-là à l'embauche. Donc, je vois pas tant ce qu'on peut faire de plus. C'est comme, enfin, pour moi, cet argument-là, c'est comme de dire, on met pas de congé maternité parce que ça crée des discriminations à l'embauche. Le résultat, c'est que oui, effectivement, il peut en exister, mais je pense que c'est contre ces discriminations qu'il faut lutter et pas contre l'avancée du droit des salariés femmes, quoi.
Autre argument, le secret médical qui ne serait pas préservé avec ce congé menstruel.
Effectivement, je pense qu'il faut préserver le secret médical et je pense que c'est pas facile, même pour les personnes, hein, qui pourraient être concernées par des pathologies, d'en informer leur employeur. Je pense que ça va être un frein pour certaines femmes, mais à mon sens, enfin, en fait, je trouve que ça représente une tellement grande avancée dans les droits menstruels, dans les droits à disposer de son corps, enfin dans les droits sexuels, reproductifs, etc. Je trouve que c'est une telle avancée qu'en fait ce débat sur le secret médical, je me dis qu'il ne doit pas prendre le pas sur des avancées en faveur des droits. Mais bien sûr, à mon avis, dans la pratique, c'est vrai que sur le papier, ça paraît plus simple que dans la pratique. Et dans la pratique, il va falloir qu'on arrive à s'enrichir des expériences des salariés espagnols pour savoir comment c'est organisé vis-à-vis de l'employeur, pour pas que ça pénalise les personnes concernées, ça c'est sûr.
Le congé menstruel, en tout cas, ne concernera que les femmes ayant des règles douloureuses.
Tout à fait. Mais c'est ça, en fait, c'est que c'est les personnes qui ont peut-être des pathologies telles que l'endométriose ou ce genre de, qui sont dans ce genre de situation, qui auront droit à ce congé. Hein. C'est pas de fait pour tout le monde. Et comme vous l'avez précisé, la façon dont il est encadré en Espagne, c'est que c'est un médecin traitant qui doit faire un certificat médical, donc à une durée illimitée, hein, mais c'est pas de fait. Hein. C'est vraiment pour les personnes qui en ont besoin. Et je trouve que c'est essentiel.
Ce congé menstruel qui a déjà été mis en place dans d'autres pays.
Je sais qu'au Japon, c'est quelque chose qui existe, mais c'est des congés qui sont pas payés. C'est-à-dire que c'est permis et du coup c'est bien parce qu'on en discute. Mais je sais qu'au Japon c'est pas rémunéré. Après j'ai pas une situation globale sur tout ce qui se passe en Asie. Moi ce que j'avais lu c'est que en Afrique pour le coup, en Zambie, ça existe depuis 2015 et que là c'est un jour de congé. Alors c'est peut-être insuffisant, hein, mais c'est quand même bien plus que ce qui existe en France. En Zambie, en Afrique depuis 2015, on a un jour de congé pour des raisons, enfin pour les de congé menstruel par mois qui est financé. Donc ça, je trouve que c'est un bon exemple aussi à donner.
Et justement, nous avons posé cette question à Clotilde. Où en est-on en France ?
Alors, on en est qu'il y a des petites initiatives à droite, à gauche, avec, je ne sais pas, par exemple, des salles de repos qui sont mises dans certaines structures, des jours de télétravail qui vont être accordés aux salariés. Donc, c'est vraiment c'est vraiment des balbutiements, on va dire, et puis c'est pas du tout généralisé. Au planning familial de la Gironde, par contre, le congé menstruel, il a été mis en place. Hein. Et du coup, on a des salariés au planning familial qui peuvent tout à fait avoir des congés qui sont payés par la structure pendant qu'elles sont quand elles ont des règles trop douloureuses, etc. Donc où en est-on? Je dirais que ça dépend des endroits, mais on est encore très très loin de faire en sorte que ce soit l'État qui finance ce congé.
Je suis une intelligence artificielle et je suis toujours avec vous chaque nuit sur Voltage pour écouter votre musique préférée.
Et d'ivresse. Et comme d'habitude, je rentre matin. Et tous mes problèmes chez moi, je les laisse. Car quand vient la foule, alors tout va bien. Tout le monde le sait, si tu vas à Paris, tu auras le monde. Si les rues pouvaient, elles te raconteraient comment vagabonde. Et qu'on finisse seul ou accompagné, santé à la tienne. On jure d'être sage et comme chaque soir on fera des siennes à la parisienne. Tout le monde le sait, si tu vas à Paris, tu auras le monde. Si les rues pouvaient, elles te raconteraient comment vagabonde. Et qu'on finisse seul ou accompagné, santé à la tienne. On jure d'être sage et comme à chaque soir, on fera des siennes à la parisienne.
Directement notre numéro 07 80 80 64 64. C'est le numéro Voltage. Écrivez-nous, laissez-nous un vocal et partagez-nous toutes vos envies en direct. Voltage. Dance Music. 07 80 80 64 64. Et Voltage reste encore une fois votre radio. Voltage. Dance Music.